c'est super important que ça soit suivi de fruits, les amis. Et c'est ça le meilleur argument contre le fait de dire que c'est émotionnel ou pas émotionnel.
Le gars qui était au Caron, là.
Il y a eu une époque, quand j'étais plus jeune, où tout le monde tombait. Vous alliez dans une réunion et tout le monde tombait. Moi, je pensais que c'était normal, parce que j'ai toujours vu ça quand j'étais enfant, que dès que quelqu'un venait prier pour toi, tout le monde tombait, jusqu'au jour où j'étais plus grand, je me suis trouvé dans des réunions et je sentais le gars essayer de me faire tomber plus ou moins. Parce que à l'époque, il fallait tomber.
Parce que
certains tombent quand ils sont touchés par le Saint-Esprit. Certains vont tomber, certains vont tellement être submergés qu'ils vont tomber. Moi, parfois, personnellement, dans des temps de louange, je ne sais pas pourquoi, je sens Dieu m'inviter. Je me sens comme poussé à m'agenouiller. Parce que la présence de Dieu, c'est comme un poids, vous savez, qui descend dans les temps où on est avec lui. Il y a comme ce poids qui vient. Et des fois, je me sens comme poussé à m'agenouiller et même parfois à m'allonger par terre.
De repartir sur une semaine.
Je ne sais pas pourquoi, c'est comme une expérience où je sens Dieu me dire, voilà, là, il n'y a plus besoin de chanter, il y a juste besoin d'être là dans ma présence. Et ça va ressembler à des choses différentes pour chacun de nous. Ne jugeons pas la manifestation de la personne d'à côté. Focalisons-nous sur lui.
Si, il y a culte la semaine prochaine, je sais même pas.
Et on voit un bon arbre à ses fruits. Mais on n'est pas là, les amis, aussi, franchement, gardons-nous de juger les autres. Si quelqu'un... voilà, vit quelque chose. Vraiment.
Et sinon, vous faire un rapide retour. Donc, comme
bon,
vous
sauf s'il tombe et qu'il se fait super mal, là, vous pouvez aller l'aider à se relever et vous pouvez peut-être lui dire ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Je sais pas, mais gardons-nous de regarder soir, vraiment nous, à ce que expérimentent les autres. Mais vraiment, cherchons-le lui. C'est vraiment central.
De cette église qui nous accueille. Ici, concernant
j'ai vraiment un cœur d'arrêter de là-dessus.
Vous savez que,
ça tombe bien parce que c'est l'heure.
Si vous savez ou si mais vous aviez perçu.
Je voulais juste vous proposer de vous lever et qu'on puisse
sur
finir
des
ensemble
d'un coup, il y a quelques remous dans ce projet d'achat. Donc la réunion concernait quelques craintes.
Jésus, nous te remercions. Nous sommes encore tellement reconnaissants pour qui tu es et pour ce que tu as fait, Seigneur, pour chacun d'entre nous.
Ce qui est très positif, c'est que la réunion, c'est vraiment.
Merci pour cette belle citation que j'ai lue ces derniers jours au moment de Pâques de Charles Spurgeon. Pour ceux qui le connaissent, ce grand théologien qui disait justement toute ma théologie se résume en une seule phrase : Christ est mort pour moi.
Ça, c'est chouette.
Christ est mort pour moi.
Comme on le fait aujourd'hui, ça c'est chouette.
Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants.
Le plus
et Seigneur, cet après-midi, nous ne voulons pas gaspiller. Nous ne voulons pas vivre à moitié. Nous ne voulons pas galvauder ton sacrifice.
On sait que Dieu est souverain.
C'est pas qu'on veut se mettre la pression, mais on ne veut pas passer à côté de toutes les merveilles que tu as fait pour nous par ta grâce à la croix. Nous voulons vivre pleinement ce salut. Nous voulons pleinement être sauvés. Nous voulons pleinement être guéris et être délivrés. Et amener aussi cela pour les gens autour de nous. Merci Seigneur parce que au moment où tu as expiré sur la croix, où tu es mort, où ton cœur s'est arrêté de battre dû à ce péché, tous nos péchés qui étaient sur toi, il y a eu un tremblement de terre.
D'avoir confiance en
et suite à ce tremblement de terre, le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas. Ce voile était la chose qui séparait le reste du temple du lieu très saint, le siège de ta présence. Et alors que ce voile s'est déchiré, ça veut dire qu'il n'y avait plus de séparation, plus de conditions pour accéder à ta présence. Ta présence a soudain envahi. Et ta présence a soudain été accessible grâce à ton sacrifice, Jésus. À tel point que les tombes des cimetières voisins ont commencé à s'ouvrir et qu'il est dit dans la parole, les saints qui étaient enterrés là sont sortis des tombes et sont allés dans la ville. Et les gens qui étaient là étaient étonnés.
Pour ce message d'aujourd'hui,
et ce que nous chérissons cet après-midi, ce que nous voulons chérir, Seigneur.
Je sais pas pourquoi, on a une semaine.
Tu nous exhortes dans ta parole à demeurer en toi, et que si nous demeurons en toi, tu demeures en nous, Seigneur.
Au niveau des enseignements,
aide-nous, Seigneur, à prioriser ta présence, Seigneur,
vraiment la foi que Dieu allait,
mais à le faire vraiment en l'expérimentant. temps, en ressentant, Seigneur, tu nous as donné cinq sens. Nous voulons avec nos cinq sens, et nous voulons intérieurement, spirituellement, parce que nos esprits sont liés au tien, expérimenter ta présence, expérimenter ta paix, expérimenter ta joie, expérimenter ta maîtrise de nous-mêmes, expérimenter ta libération.
Parler de la présence de Dieu.
Merci papa.
Et
merci papa.
Aussi vous dire,
nous voulons vivre cela.
Pour arriver
et
à
merci
cela.
Parce qu'à mesure que nous expérimentons
dernière,
tout cela, nous pouvons l'amener partout où nous allons.
Radio,
au travail.
J'aime pas trop
à l'école
radio,
de nos enfants.
De se nourrir de ces
ou
choses-là,
pour nos enfants dans leur propre école.
Mais j'aime bien écouter. Il y a notamment une émission sur RMC.
Nous pouvons amener ça dans nos familles.
Parce que comme il y a des gens,
il y a des gens qui te connaissent pas dans nos familles, mais même ceux qui te connaissent, Seigneur, il y a cette soif
de
communion, Seigneur.
De notre société, un peu de,
oh,
de
Seigneur,
voir qu'est-ce que les gens pensent.
Encore une fois, viens.
Sujet, je trouve ça assez
viens
utile,
en nous, viens sur nous, viens autour de nous.
Utile.
Nous avons soif de ta présence.
Ça m'a marqué parce que vous savez, le président Emmanuel
Macron, oh, Seigneur, c'est la seule chose qui puisse nous satisfaire pleinement.
National,
ta
et,
présence.
Il a eu cette phrase qui a fait tant scandale.
Amen, Seigneur,
qu'il fallait réparer le lien avec l'Église.
Merci,
et le fait que le président d'une république laïque, comme vous le savez, prononce ces mots a produit un tollé dans les médias français. Comment le président ose parler de réparer un lien avec l'Église, que déjà le mot lien avec l'Église pour les gens c'est quelque chose de, voilà, il y a la loi 1905, la loi sur la laïcité, etc. Et pour être à 100% honnête, moi j'ai pas de soucis avec la laïcité, bon j'ai plus des soucis avec l'extrémisme dans la laïcité, mais j'ai pas de soucis avec la laïcité, je pense pas que ce soit quelque chose de mauvais en soi. Cette loi 1905 je trouve très bien, je trouve quand même en France on a quand même une certaine liberté pour vivre notre culte, vive notre foi. Il faut quand même se rendre compte par rapport à beaucoup d'endroits dans le monde. Mais ça m'a choqué parce que dans les réactions suite à ça, il y avait une violence et je sentais que les gens qui intervenaient, le fait même dans les médias de parler de Dieu, que Dieu soit évoqué, que l'Église soit évoquée et que Dieu soit évoqué, que la foi soit évoquée, il y avait une violence comme, et le président qui représente nous les Français, le fait que lui parle de ça, on dit non et comme si je sentais qu'aujourd'hui le but de beaucoup de personnes et là c'est vraiment les extrémistes de cette laïcité, c'est d'écarter complètement Dieu même de notre langage, presque de prononcer certains mots, aujourd'hui non. Aujourd'hui, il y a des thèmes qu'on ne peut plus aborder. Vous savez, on parle aussi souvent de l'avortement. En ce moment, c'est un sujet qui nous tient très à cœur avec Emmanuel. Aujourd'hui, par exemple, il y a une loi qui est passée où vous n'avez pas le droit de parler des conséquences négatives d'un avortement. C'est puni par la loi. Les sites sont en train d'être fermés. Vous pouvez aller en prison pour ça. Ça s'appelle le délit d'entrave. Et j'ai l'impression que ce délit d'entrave, il est de plus en plus sur plus en plus de sujets qui concernent la foi. Quelque part, ça m'étonnait pas plus que ça. Je trouve que c'est un petit peu l'évolution des choses, mais ça m'a quand même posé question. Le fait que la société aujourd'hui dans laquelle on vit veut écarter Dieu complètement, veut écarter Dieu de l'équation de nos vies, de notre société. Alors même que notre société a été fondée sur des valeurs chrétiennes, tout ce qui aujourd'hui on essaye vraiment de le mettre complètement dehors. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus scandalisés par la présence d'une crèche dans un lieu public que par des choses beaucoup plus graves. Vous savez, c'est toujours rigolo au moment de Noël d'entendre ça. Comment une crèche, vous rendez compte ? Comme c'est grave, des bergers et un petit bébé et un âne. Mais bon, voilà, je fais un peu d'humour là-dessus, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est pas dramatique tout ça. Par contre, il faut qu'on ait une réponse, nous chrétiens, appropriée à ça. On n'est pas là pour juger le monde, on n'est pas là pour juger les gens, on n'est pas là pour être dans des débats sans fin sur comment les gens devraient penser, non. Mais on a un appel en tant qu'enfant de Dieu. Romains 12, l'épître aux Romains 12, nous dit, il y a ce verset bien connu, « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. » pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Et j'aime ce mot transformé, donc ça vient du grec métamorphéo, qui donne évidemment métamorphose. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire vraiment si on décrit un peu tout ça? C'est changer de forme, donc en nature, en apparence et en structure. Et j'aime un peu cette description parce que Juste avant, dans Romains, il parle de la grâce qui nous est faite, que, du fait que les Juifs aient voulu crucifier Jésus et fait que Christ soit crucifié. Du fait de ça, ben, nous, qui étions nous non-Juifs, nous qui sommes venus après, ou même pour ceux du moment, nous avons accès à ce salut. Nous avons accès à ce que Jésus-Christ a fait. Et évidemment, Jésus, sa mort et sa résurrection, c'est vraiment le centre de notre foi. Et du coup, mais j'aime ce mot grec parce que vraiment, ça nous explique que le salut que l'on trouve en Jésus-Christ, c'est pas tiens que ça y est, t'as ton ticket pour le paradis, c'est bon, allez, on passe à autre chose. Non, c'est quelque chose qui nous fait changer de forme, en nature, en apparence et en structure. C'est plus que, en fait, le sang qui a été versé pour nous, il ne nous sauve pas seulement, mais il nous transforme. On passe par une réelle transformation. Et ça, j'aime que ça vienne dans ce verset où il est dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement. Laissez-vous transformer par ce sang. » parce que ben, c'est facile, franchement, c'est facile d'être modelé par ce monde. Je veux dire, on n'est pas de ce monde, mais on vit dans ce monde. Et ça va vite, je vous le dis, que quand on ne se nourrit pas de la bonne manière, des bons ingrédients, ça va vite à ce qu'on soit beaucoup plus humain dans nos réactions que divin, entre guillemets. On a une part divine, on est enfant de Dieu. Christ habite en nous. Et vous savez, il y a ce verset qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, pardon. Mais du coup, si on se laisse modeler par le monde, et ben du coup, c'est pas le Christ qui vit en nous qui va être manifesté dans nos réactions, tout ça, mais c'est notre côté humain, notre côté sans Dieu. Mais justement, le but, c'est que vraiment, je pense que c'est toujours pareil. Plus on réalise ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, plus ça devient naturel de se comporter comme enfant de Dieu. Et donc cette volonté du monde, c'est d'enlever complètement Dieu de l'équation aujourd'hui. Et en France particulièrement, mais bon, partout ailleurs aussi. Vous savez, on ne se bat pas contre la chair et le sang, ce n'est pas la France, le machin, non. On se bat contre les puissances et les dominations. C'est le travail de l'ennemi d'essayer de laver le cerveau des gens. Et du coup, je vous dis ça parce que c'est important, nous, en tant qu'Église, en tant que famille connecte ici, de savoir qu'on ne veut pas mettre Dieu en dehors de l'équation, évidemment. On veut que la présence de Dieu soit le centre de ce qu'on vit ici. Ça, c'est vraiment une des valeurs. On veut être reconnu pour ça. C'est une des valeurs qu'on veut cultiver. C'est l'expérience qu'on veut cultiver ici. On a vraiment envie, en tant qu'équipe, que ce soit ce qui nous distingue. Quand on se rencontre en tant que famille connecte, il y a quelque chose. L'atmosphère, on l'a chanté, Olivier l'a si bien chanté dans son chant prophétique, l'atmosphère est différente. Là où deux ou trois sont assemblés, Dieu est là. Dieu est là et ça se sent, ça se voit, ça se ressent. Et on veut vraiment cultiver ça. On veut être centré autour de la présence de Dieu. Dans le livre des Nombres, au début de la Bible, qui a été écrit par Moïse, il y a ces versets, Nombre 2, versets 1 et 2, qui décrit l'organisation du peuple d'Israël à cette époque-là, au moment, vous savez, où il y avait le tabernacle. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Les Israélites camperont chacun sous sa bannière, sous les enseignes de son groupe familial, à une certaine distance autour de la tente de la rencontre. Donc vous savez qu'il y avait 12 tribus d'Israël et les 12 fils de Jacob et leurs descendants, donc formaient ces 12 tribus. Et alors qu'il y avait le tabernacle, toutes les instructions, ça y est, étaient venues, on avait fait ce tabernacle. Et vous savez que Dieu manifestait par sa présence à l'époque concrètement par une nuée, cette espèce de colonne de fumée qui guidait les Israélites. Quand la nuée partait, ils partaient. Et cette nuée, c'est vraiment plus qu'un symbole, c'est la représentation, c'est la manifestation de la présence de Dieu à ce moment-là de l'histoire du peuple d'Israël. Et ce que j'aime, c'est que les 12 tribus étaient organisées. Je les vois bien, je vois les campements, quand vous lisez tout ça, c'est hyper précis, les mesures, tout ça, tout était organisé de manière parfaite. Ils étaient tous à égale distance autour de la tente de la rencontre, autour de la nuée, autour de la présence de Dieu. Et vous savez, il n'y a pas de séparation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Si, il y a une séparation, bien sûr, il y a l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance, mais énormément de choses qui sont vécues dans l'Ancien Testament sont en fait les prémices de ce que Jésus fait dans le Nouveau Testament. Et en fait, on a tellement à apprendre de ce que Dieu faisait avec son peuple d'Israël, que c'est incroyable d'imaginer tout ce peuple, des milliers de personnes organisées comme ça autour de la présence de Dieu. La priorité, que c'est la présence de Dieu, et on va là où la présence de Dieu va. Combien c'est important, quelle belle image que c'est pour nous aujourd'hui, et combien c'est ça aussi qui devrait organiser nos rencontres. Tout simplement notre vie, c'est pas que pour les rencontres communautaires, c'est même individuellement, la centralité de la présence de Dieu. Si tu crois en Jésus aujourd'hui, si tu crois qu'il est mort et ressuscité, qu'il est Seigneur, Dieu habite en toi, la présence de Dieu est en toi, au centre de toi. Ton esprit et son esprit sont un. La centralité de la présence de Dieu. Et on a vraiment à cœur en tant qu'Église que ce soit le cas. Et développons un petit peu cette présence de Dieu. Du coup, pourquoi, quel lien avec Bedford, tout ça? C'est tout simplement, j'ai repris beaucoup des enseignements qu'on a eus qui étaient sur ce thème. On disait que voilà, on avait vraiment à cœur d'avoir des fondations communes avec tous ces leaders qui étaient là-bas. Et ça, c'était une des fondations communes, et si ce n'est peut-être une vraiment des principales. L'importance, la centralité de cultiver la présence de Dieu au milieu de nous. Exode 33, versets 15 et 16, je continue dans l'Ancien Testament. Si tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. Moïse dit, à quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur pour moi et pour ton peuple, sinon si tu marches avec nous et si nous sommes ainsi distingués? Alors que ce monde aujourd'hui veut se distinguer par l'expulsion de Dieu de tout, même du langage, même de ne pas avoir la possibilité de parler de Dieu, eh bien nous, on veut que ce soit l'inverse. On veut être distingué par la présence de Dieu au milieu de nous, en nous et au milieu de nous. Et tout ça, c'est super à dire, c'est des vérités théologiques, je veux dire, qu'on en apprend, on étudie dans la Bible. Mais on a vraiment à cœur que ce soit une réalité que l'on expérimente, que l'on ressent. Parce que la présence de Dieu, elle peut se voir de trois manières différentes. Dieu est omniprésent, elle est aussi bien sûr intérieure en nous, comme je vous le disais, mais elle se manifeste aussi de manière particulière. Dieu est omniprésent, Dieu est partout. Il y a ce verset qui dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu », c'est un proverbe, « observant les méchants et les bons ». Dieu voit tout. Dieu sait tout, c'est rigolo, enfin c'est triste, mais c'est rigolo de voir dans le jardin d'Éden Adam et Ève qui se cachent, vous savez, de Dieu, et qui se couvrent et qui se cachent de Dieu, et Dieu qui rentre dans leur jeu et qui dit « Mais Adam, mais où étais-tu ?» Comme s'il ne savait pas où était Adam. Dieu est partout, Dieu voit tout, et parfois ça fait un peu peur de dire ça, mais quand on connaît Dieu qui est un père qui est bon et qui aime ses enfants, d'un coup, ça fait plus peur de savoir qu'il est partout. Et au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant. De savoir que où que l'on aille, vous savez, dans le psaume 139, si je vais à l'est, si je vais à l'ouest, si je vais par là, partout tu me vois, partout. Je ne me rappelle pas les mots exactement, mais vous voyez ce que je veux dire. Dieu est partout. Et j'avais à cœur d'honorer cet homme qui maintenant est parti rejoindre le Seigneur. Et ce gendarme, vous savez, qui a donné sa vie pour sauver les gens de ce super-rue à côté de Carcassonne, Arnaud Beltrame. Et j'ai vu cet envoyé spécial, et d'ailleurs j'ai dit merci Seigneur, parce que là, sa foi, et je pense qu'ils ont eu ce respect de ne pas mettre justement sa foi de côté, mais qu'ils ont vraiment, d'ailleurs ils ont même filmé le moine avec qui il passait du temps dans ses retraites, c'était beau. Mais ça m'a vraiment fait penser à ça, que Dieu est partout. Vous allez au super-rue faire vos courses, un fou poussé par le diable veut commettre et d'ailleurs commet ses actes, mais Dieu est là et Dieu envoie quelqu'un. Et vraiment j'ai été marqué par cette histoire de cet homme qui poussé par certes sa conscience professionnelle, tout le reportage expliquait à combien ce type était vraiment un gendarme hors pair, vraiment consciencieux. Mais ils ont aussi dit que c'était sa foi qui l'avait poussé à faire ça, et son intimité avec Dieu, la relation qu'il avait découvert quelques années auparavant, et ce suivi qu'il avait avec ce moine dans ce lieu de retraite, et qui préparait un mariage. Il s'était marié civilement, mais il devait se marier au mois de juin avec son épouse, il préparait ça avec ses frères, et ça m'a vraiment montré encore une fois que Dieu est partout, et il utilise comme ça des gens partout, dans tout, il n'y a aucun lieu qui est trop éloigné pour que Dieu se manifeste. Et j'ai hâte peut-être de rencontrer cet homme au ciel et de le féliciter, quoi, de lui dire merci pour cet acte merveilleux. Dieu est partout, Dieu est omniprésent. Sa présence, elle est aussi intérieure, elle est en nous. Vous savez qu'il y a ce verset qui dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu et notre esprit sont liés. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit, la Bible dit, que nous sommes enfants de Dieu. Il y a ce lien perpétuel. Il y a Jésus qui intercède pour nous en permanence. C'est comme si c'était, vous savez, notre cœur, quand on est, je crois que c'est au bout de 3 semaines de vie, notre cœur se met à battre. D'un coup, Dieu provoque cette réaction électrique dans le cœur qui fait que le battement démarre. Et il me dit, c'est pareil, quand on a la nouvelle naissance en Christ, eh bien, il y a, tac, une union qui se fait entre... Vous savez, ça me fait penser aussi, pour reparler de la gestation, du placenta, de la maman et de ce cordon ombilical. Il y a ces vaisseaux sanguins du bébé et de la maman qui tous s'entremêlent comme ça, tac, et ne font qu'un. Et en fait, par ce lien, ils ne font qu'un. Et c'est un peu comme ça, je trouve, c'est une belle image pour notre esprit et l'esprit de Dieu qui, tac, 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 ne font plus qu'un. On est complètement liés. Et la présence de Dieu, elle est en nous. Et ça, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre des rassemblements où on était, par exemple, ce week-end, ou même de venir à l'église et tout, pour expérimenter la présence de Dieu, pour que notre intérieur soit vraiment le lieu de cette vie, le lieu où Dieu habite et où Dieu se manifeste et où Dieu nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre chaque jour. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu est là en toi. Et si tu fais silence, aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit tout le temps. Il y a beaucoup de bruit tout le temps. Il y a la télé, il y a le téléphone qui sonne, il y a machin, il y a truc, il y a tout le temps du bruit. Mais si on s'arrête, et si on le prend le temps d'écouter, là on le sent. On sent sa douce présence qui est là avec nous. Et je redirai après pourquoi, mais tout ça c'est pas que des émotions, c'est pas que du ressenti superficiel. Donc Dieu est omniprésent, Dieu est présent en nous, mais la présence de Dieu aussi, troisièmement, se manifeste de manière concrète. C'est justement cet ami de Bedford, Phil, qui dit que Dieu est le Dieu qui est partout, qui est omniprésent, sa présence est partout, mais c'est en même temps le Dieu qui aime se manifester quelque part. Il est partout, mais il est quelque part, précisément. Et c'était beau ce que tu disais par rapport au fait que ce week-end, ben voilà, les gens ont rencontré Dieu, là c'est juste à l'échelle de la Drôme, mais dans plusieurs endroits, Dieu a rencontré les gens de manière personnelle. Et je prophétisais sur une des jeunes pour qui j'ai prié ce week-end, et je disais, tu es la préférée du Père. Et elle m'a regardé bizarrement, comme, mais comment tu dis ça? Mais oui, tu es la préférée. En fait, nous sommes tous, Dieu est capable que nous soyons tous collectivement ses enfants, mais que chacun individuellement, nous soyons ses préférés. Parce que nous sommes uniques, c'est lui qui nous a créés uniques à son image. Et toi, cet après-midi, tu es là, tu es le préféré de Dieu. Il t'aime comme il n'aime personne d'autre, parce que tu es unique à ses yeux. Et la présence de Dieu comme ça, elle couvre, vous savez, dans la création, la présence de Dieu couvrait la surface des eaux comme ça. Elle est partout, mais elle aime aussi, Dieu aime se manifester quelque part. Et je trouve que on voit un bel exemple de la présence de Dieu qui aime se manifester de manière concrète, dans ce passage d'Ésaïe 61. Je pense que c'est vraiment un des passages qui est central aussi pour notre Église, qu'on répète très 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 souvent en ce moment, et j'ai envie de vous le relire encore une fois. C'est Jésus qui rentre dans cette synagogue à Nazareth, son lieu de naissance, et qui ouvre le rouleau et la lecture du jour, comme par hasard, le jour où il rentre dans cette synagogue. Il y a la lecture, vous savez, pour les juifs, la lecture est prévue à l'avance. En fait, elle est décidée par les chefs juifs à l'avance. Il ouvre le rouleau et voilà la lecture au moment où Jésus lit ça. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de Dieu pour servir à sa gloire. Voilà ce qui se passe quand il y a la présence de Dieu qui se manifeste. Voilà ce qui se passe. Quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, voilà ce qui se passe. Les prisonniers reçoivent la délivrance, les captifs reçoivent la liberté, les malades sont guéris, ceux qui ont le cœur brisé sont guéris. Et si ce n'est plus toi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en toi, ça veut dire que toi aussi tu peux lire Ésaïe 61 et tu peux lire, tu as totalement le droit de lire, tu as ce droit parce que justice t'a été faite, la justice a été rendue en ta faveur si tu crois à Jésus. Tu as le droit de dire l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour faire toutes ces choses magnifiques pour lui et surtout avec lui. Et je voulais juste vous raconter cette fille, c'est rigolo, c'était ce matin qu'on a pu prier avec Emmanuel pour cette demoiselle j'aime quand on voit ça. Hier, on a fait un atelier, on avait à cœur de partager un atelier à ces jeunes avec Emmanuel qui s'appelait Love and Sex, la vraie liberté. On avait vraiment envie de parler des choses telles qu'elles sont, dans une atmosphère de sécurité, dans une atmosphère d'honneur, mais quand même de parler de sexualité, de parler d'avortement, de parler de contraception, d'être très concret avec eux. C'était super. Mais il y avait une des jeunes qui a participé à notre atelier qui était vraiment fermée. Qui même dans sa question qu'elle nous a posée nous rentrait un peu dedans, on voyait vraiment qu'elle était blessée à l'intérieur et c'est tellement dur. Et on est passé, enfin moi personnellement je peux vraiment m'identifier à eux parce que je suis passé par là, d'aller dans ces week-ends où vous voyez tous ces autres jeunes qui ont l'air, bon si ça se trouve ils vivent la même chose que vous, mais ils ont l'air tous parfaits, tous bien chrétiens, et toi à l'intérieur tu souffres, t'as une souffrance, t'es mal avec toi-même, t'es tellement mal. Une jeune de 18 ans, donc pas non plus si jeune que ça, mais je pouvais vraiment m'identifier à elle. Et bon, comme par hasard, encore une fois, on parle de Dieu, l'atmosphère de Dieu est là. Elle est venue nous voir ce matin ou hier soir, je ne sais plus. Et elle nous a dit, est-ce que j'aimerais pouvoir prendre un temps avec vous pour vous parler. Et du coup, elle est venue et ce matin, donc on a pu s'isoler avec elle pendant que tous les autres étaient dans un temps de louange. Et c'était juste magnifique de voir comme elle était touchée. Et de voir plein de blocages qui étaient visuels, je veux dire, sur son visage, sur sa gestuelle, sur comment elle était, juste des blocages, quoi. Et alors qu'on a invité la présence de Dieu à venir, alors qu'on a invité le Père à venir lui montrer son amour, alors qu'on a pu lui poser des questions, et vous voyez, elle résistait, mais elle résistait de moins en moins. Et jusqu'au moment où elle a pu lâcher ce fardeau qui était sur elle, un fardeau lourd à porter d'actes qu'elle avait commis et qu'elle était tenue par la honte. Elle était mal, cette fille. Et alors qu'elle a lâché ça, les larmes ont commencé à couler et on a pu la conduire dans une prière et dans une démarche de pardon. Et on a pu rétablir la vérité de Dieu sur sa vie. Et là, vous savez quoi ? Elle était transformée. Elle était transformée et elle était tellement transformée que sa petite sœur, pour laquelle on avait pu aussi prier hier après l'atelier, a dit à Emmanuel après coup, oh, je ne sais pas ce que vous avez fait à ma sœur, mais je ne l'ai jamais vue comme ça. Et même des gens qui la connaissaient, c'est rigolo parce qu'on avait parlé d'elle en réunion avec tous les responsables avant parce qu'ils s'inquiétaient vraiment pour elle. Ils disaient bon et tout, qu'est-ce qu'on fait avec cette fille ? Elle est partie, elle n'assiste pas en réunion, etc. Et même eux, en la voyant, en pouvant parler avec elle après coup, étaient vraiment étonnés de voir ce que Dieu était en train de faire et allait continuer. On a pu la confier à des gens d'une super église à Valence parce qu'elle n'avait pas d'amis chrétiens vraiment pour entretenir tout ça. Donc voilà, on a pu passer le relais. Mais voilà, quand la présence de Dieu est là,
quand on l'invite, quand on le prie, quand on lui demande de venir, eh bien, il vient et il délivre les captifs. Cette fille était vraiment captive et on a pu être témoin de la libération de son cœur. Et je ne dis pas que tout est fini pour elle, que tout est parfait aujourd'hui, mais je dis qu'aujourd'hui, sa vie ne sera plus jamais la même. Et c'est parce que, et je sens que le salut vraiment est entré dans cette maison. Vous savez, le salut, ce n'est pas que le ticket pour le paradis. Quand on est sauvé, guéri et délivré. Et je sens que la délivrance est entrée dans cette maison au travers de cela, au travers de ces deux sœurs qui étaient là. Parce que la présence de Dieu, c'est quelque chose de global, mais Dieu aime aussi manifester sa présence de manière concrète pour nous individuellement, comme pour cette chère demoiselle. Ce que j'aime aussi avec la présence de Dieu, c'est que c'est ça qui nous permet de régler le problème de l'esprit d'orphelin. Vous savez, si on n'est pas proche de Dieu, si sa présence n'est pas proche de nous, si elle n'est pas entretenue en nous, on va développer ces symptômes du cœur d'orphelin. Tout ce qui est du sentiment de rejet. Tout ce qui est de sans cesse se comparer aux autres pour savoir si on est meilleur ou si on est meilleur. Tout ce qui est même de juger les autres parce qu'on se sent supérieur. Tout ce qui est de vouloir mériter la faveur de Dieu, mériter l'amour de Dieu. Tout cet esprit de performance, cet esprit religieux, de vouloir être sur scène et dire, oh, regardez-moi, c'est extraordinaire. Tout ça, en fait, ce sont des choses qui viennent quand la présence de Dieu n'est pas vraiment quelque chose qui est central en nous. Parce que donc il y a Romains 8, 15, ce verset bien connu qui dit « Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la crainte. » Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils et des filles adoptives de Dieu. Et l'esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On a reçu cet esprit. Parce qu'en fait, être orphelin, ce n'est pas de ne pas avoir de parents. Parce que chacun de nous est issu forcément de parents. Même s'ils ne sont plus là, présents, il y a forcément un homme et une femme qui ont donné une partie d'eux pour que nous existions aujourd'hui. Jusqu'à présent, ça marche comme ça, ça marchera toujours comme ça, malgré toutes les tentatives de passer à côté de ça, mais ça sera toujours comme ça. Et du coup, on est orphelin, c'est pas de ne pas avoir de parents, mais c'est d'être éloigné. Ces symptômes-là viennent quand on est éloigné de nos parents, quand on est privé de la présence d'un ou des deux de nos parents. Olivier nous raconte souvent, il a encore pu le faire pour ses jeunes ce week-end, le fait de perdre sa maman, comme ça avait quelque chose qui l'avait poussé à chercher l'amour de manière différente. Parce que c'est ça, parce que quand on est éloigné de la présence de notre papa, de celui qui nous a créés, de celui qui nous aime, eh bien, ça veut dire qu'on ne sait pas qui on est. On ne sait pas, je parle là dans les tripes, hein, pas dans la tête, on ne sait pas dans notre cœur qu'on est enfant de Dieu. Et du coup, on va développer tous ces symptômes. Combien il est important que cette présence, de cette révélation, que Dieu est proche. Et on ne peut pas s'empêcher, c'est mécanique. Si ton père terrestre était quelqu'un ou est quelqu'un de lointain, de froid, c'est juste humain, on va toujours projeter l'image de notre Père terrestre sur le Père céleste. Et c'est pour ça que c'est important d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, comme on l'a dit au début. Pour vraiment se rendre compte que notre Père céleste n'est pas comme ça. Nos pères et nos mères terrestres, malheureusement, ne sont pas parfaits. Ils font souvent tout ce qu'ils peuvent, mais ils ne sont pas parfaits. Du coup, logiquement, ils commettent des erreurs. Mais notre Père céleste, lui, est un bon Père. Qui nous donne de bonnes choses, à commencer par son amour inconditionnel. Et quand on a ça en nous, quand on a cette présence de Dieu, vraiment qui nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu, comme le dit ces versets, eh bien, on est libéré. Libéré de cette loi, de ce péché, et du coup, de tous aussi ces symptômes du cœur d'orphelin qui nous pourrissent la vie. Donc, si tu veux, je le dis souvent, je sais, mais ça marche pour moi, alors c'est quelque chose que je vous répète pour vous aussi. Si tu ressens, si par rapport à quelqu'un que tu connais dans l'église, hors de l'église, si tu ressens certains de ces symptômes, moi, ce que j'ai trouvé qui marche bien, encore une fois, de s'arrêter et de dire « Père, révèle-moi combien tu m'aimes encore. » Et je vous promets qu'à la seconde où vous faites ça, ou peut-être à la minute, vous allez voir, tous ces sentiments vont s'estomper. Et il y a une paix intérieure qui revient. C'est important de cultiver ça en nous, les amis.
Parce que sinon, nous, on va rester blessés et puis en plus, on va blesser les gens autour de nous. On va faire du mal autour de nous. Et ça, c'est pas ce qu'on veut faire. Dans la présence de Dieu, et pour aussi continuer sur notre église, sur ce qu'on veut vivre, c'est vraiment ces temps de louange aussi, qui sont pas juste chanter des chansons avec des belles paroles, mais c'est vraiment d'expérimenter la présence de Dieu. Les chants prophétiques, c'est vraiment ce qui découle du cœur des personnes qui sont là et qui sont touchées à un point qu'il y a des révélations qui viennent. Et on veut pas juste chanter des chansons, mais on veut être touché par la présence de Dieu. À tel point que du coup, ben, parfois ça part dans une direction, ça part dans une autre direction. Et on ne veut pas diluer ça parce qu'il y a des gens nouveaux qui viennent. Il y a des gens nouveaux qui viennent aujourd'hui pour la première fois et franchement c'est extraordinaire. Merci de venir nous voir. On vous aime déjà, on ne vous connaît pas, mais on vous aime déjà. Mais c'est important, et d'ailleurs pour eux aussi, c'est important que nous ne réduisions pas notre expérience de la présence de Dieu pour ne pas choquer. Par contre, ce qui est très important, c'est que nous expliquions, et c'est pour ça que je vous dis ça aujourd'hui, que nous expliquions pourquoi nous voulons vivre ces choses. Pourquoi quand la présence de Dieu est là, il se passe forcément des choses. Dieu est un Dieu vivant, et quand il est là par sa présence dans un endroit, eh bien, il va y avoir des gens qui vont pleurer, il va y avoir des gens qui vont rire. Le fruit de l'Esprit, les amis, quand le Saint-Esprit est là, il y a la joie qui vient, il y a la paix qui vient. Quand l'Esprit du Seigneur est sur moi, il y a la libération. Et parfois, quand des gens sont libérés, si des gens sont libérés pour de faux, eh bien, il ne va rien se passer. Par contre, quand des gens sont vraiment libérés, eh bien, ça va se voir. Et c'est pour ça que quand les gens me disent « Ah, mais oui, vous mettez une petite musique pour prier, oui, c'est, tout ça, c'est émotionnel, c'est machin et tout. » Ça m'énerve quand j'entends ça. Ça m'énerve quand j'entends ça. Mais je comprends que les gens disent ça. On reconnaît, la parole dit qu'on reconnaît un bon arbre à ses fruits. Et quand l'Esprit de Dieu vient, quand la présence de Dieu vient et se manifeste, eh bien, il y a toutes ces choses-là qui se produisent. Et en tout cas, c'est ce qu'on veut vivre. Et du coup, il se passe des choses. Il se passe même des choses parfois qui peuvent faire un peu peur. Il y a des gens qui viennent et qui sont sous l'emprise d'esprits mauvais. Vous savez qu'il y en a un, l'ennemi, qui n'est pas content que nous expérimentions toutes ces choses-là. Et parfois, il va aussi essayer, par des portes que nous pouvons laisser entrouvertes dans nos cœurs, il va pénétrer dans certains endroits de nos vies et il va nous enchaîner à ces trucs. Et quand il y a la libération, parce que grâce au sacrifice de Jésus, nous avons autorité aujourd'hui, par son nom, de libérer les captifs, comme on l'a dit dans Ésaïe 61. Et mais quand ça se passe, des fois, il y a des gens qui ont des réactions assez visuellement assez flippantes. Il faut expliquer cela. Mais c'est important. Enfin, selon moi, s'il n'y a jamais de démons qui sont chassés, c'est que la présence de Dieu n'est peut-être pas vraiment au milieu de nous. Les amis, je vous le dis, c'est pas qu'on recherche ça, c'est pas qu'on recherche des manifestations, on recherche la présence de Dieu. Les manifestations positives sont des panneaux indicateurs qui vont nous aiguiller vers Dieu. On recherche pas les manifestations pour les manifestations, on recherche celui qui se manifeste. Et voilà, c'est donc ne diluons pas. Je sais que moi, je vous le dis, ça peut être un de mes défauts. J'aime quand les choses sont carrées, sont organisées, quand on ne dépasse pas le timing, quand on est machin. Et c'est un petit défaut que j'ai qui a aussi son côté positif, parce que c'est important quand même que les choses soient aussi ordonnées. Les 12 tribus étaient de manière nickel, bien organisées autour de la présence de Dieu. Tout n'est pas toujours en bazar. Mais ne cherchons pas à éteindre l'esprit. Ne cherchons pas à éteindre l'esprit. Et c'est normal qu'il y ait des choses. C'est dans Marc 16, je crois, qu'il est dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils guériront les malades, ils chasseront les démons, et ils ressusciteront les morts, et s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. » En mon nom, ils guériront les malades, ils chasseront les démons. Soit, les amis, on croit que ce qui est marqué dans la Bible, c'est vrai, et on le vit, soit, eh bien, on va jouer au tennis ou on fait autre chose. Ouais, non, c'est... Je vous dis tout ça, mais c'est vraiment quelque chose que je me prêche à moi-même. Mais c'est le cœur vraiment qu'on a avec l'équipe pour ce qu'on veut vivre dans cette communauté et ce qu'on veut amener aussi aux gens autour de nous. Donc, vivons tout ça personnellement. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas obligé d'attendre d'être tous rassemblés. Là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là. Mais vous savez, quand vous vous tournez vers Dieu, il y a vous, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Vous êtes largement assez pour passer un bon moment, ne vous inquiétez pas. Donc seul
chez vous, dans votre voiture. Moi, je passe des moments extraordinaires avec Dieu dans ma voiture, avec des bons CD de louange. J'en mets à droite, j'en mets de gauche, j'essaie de varier. Mais passez, cultivez ça. Cultivez ça. Si vous n'avez pas trop d'enfants en bas âge aussi, enfermez-vous dans votre chambre, comme le dit la parole, et priez votre Père qui est dans les cieux. Sinon, vous pouvez toujours essayer de vous enfermer aux toilettes. Ça marche quand on a des enfants en bas âge. Il faut avoir une porte solide parce qu'ils viennent tambouriner dessus.